Oxyform. Oxyform. Tous les mercredis à 17h sur Esprit Occitanie. Sur Esprit Occitanie. Avec Romain Galtier.
Pour cette 12e émission d'Oxyform, nous allons parler de paddle, qui est un sport de raquette dérivé du tennis et se jouant sur un court plus petit, encadré de murs et de grillages. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons le plaisir sur Esprit Occitanie de recevoir pour la première fois non pas un, mais deux invités. Alexis Salle, capitaine de l'équipe de France de paddle et fondateur avec son associé Laurent Humbert du My Paddle Tour par Babola. Bonjour et bienvenue à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes tous les deux natifs de Toulouse, bien que un soit d'Albi et l'autre de Toulouse.
Tout à fait. Alors moi je suis vraiment le Toulousain, voilà, Alexis. Donc depuis j'ai 44 ans et ça fait 44 ans que je vis à Toulouse.
Voilà, moi et moi, écoutez. Je suis toulousain parce que je suis juste né à Albi, donc j'étais pas très loin et je suis arrivé dès mes premiers pas dans notre belle ville de Toulouse également.
Et vous avez fait tous deux vos études dans la région toulousaine ?
Oui, moi j'ai fait un UT technique de commercialisation à l'université Paul Sabatier.
Moi j'ai fait des études d'expert comptable, alors je suis parti quand même 3 ans à Aix-en-Provence pour finir mes diplômes, mais voilà, diplôme en poche, je suis revenu dans notre ville rose.
Alors j'imagine que le sport, c'est une passion qui doit dater. Vous avez commencé à quel âge le sport ?
J'ai commencé moi, parce que je suis le plus vieux des deux, à quelques mois près. Moi j'ai commencé très tôt, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait beaucoup de football, tennis très peu. J'ai joué 6 mois au tennis, mais j'ai joué beaucoup au football. Et je suis arrivé à l'âge de 5 ans, j'ai commencé. Puis après je suis arrivé au paddle vers 17 ans, 17-18 ans.
Alors moi j'ai joué beaucoup au tennis, donc j'ai joué un petit peu au football jeune et puis ensuite dès 8 ans j'ai joué au tennis, je suis parti 2 ans à Poitiers en sport études nationales à Poitiers pour, voilà, donc j'étais à fond tennis et puis à 16 ans je me suis blessé, donc j'ai eu une coupure de un peu plus de 2 ans et suite à cette blessure c'est vrai que j'ai jamais eu... Voilà, j'ai jamais eu la passion que j'avais avant pour le tennis et à 22 ans, j'ai découvert le padel et là, ça a été un super, voilà, pour moi, une opportunité de redécouvrir la compétition et puis de m'éclater dans un sport de raquette.
Donc tous deux, ça fait un moment que vous pratiquez le padel maintenant, donc vous avez quand même une longue expérience dans le monde de la raquette.
Oui, parce que moi j'ai commencé le paddle pour ceux qui étaient nés. blague à part, j'ai commencé moi en 1989, la première fois que j'ai joué sur un terrain de paddle à Toulouse. Donc je pense qu'à cette date-là, en France, on était quand même très très peu nombreux à avoir joué une raquette de paddle. Donc oui, c'est l'année prochaine, ça fera 30 ans.
Alors effectivement, parce qu'il y a quelques temps, j'ai des amis qui m'ont confié cette initiée au paddle, que c'était nouveau et que c'était vraiment passionnant pour eux. Mais voilà, avant ça, je n'avais même pas entendu parler de... Enfin, on n'entendait pas beaucoup parler du paddle. J'ai l'impression que c'est en train d'émerger, justement, depuis quelques années.
Oui, alors, c'est vrai que le paddle, c'est à la fois un sport qui est quand même... du coup, qui a une trentaine d'années en France, donc qui n'est pas récent en soi. Il y a une fédération qui était autonome de paddle, qui était d'ailleurs... qui était dépendante du jeu de paume. Mais en fait, le vrai développement du paddle, il a lieu depuis 3 ans, depuis que la Fédération française de tennis a repris le paddle sous son aile. Et donc, c'est vrai qu'on voit depuis 3 ans notamment beaucoup d'infrastructures privées qui se sont créées partout en France. Et là, on voit, je crois que le nombre de pratiquants, ça fait quasiment fois 5 en 3 ans. C'est-à-dire qu'on était à peu près 20 000 pratiquants et on n'est pas loin de 100 000 à ce jour en France. Donc il y a un fort développement et qui devrait continuer dans les années à venir.
Donc l'affiliation à la Fédération française de tennis a fait exploser le paddle au niveau de la
communication. Oui, le fait que la Fédération française de tennis ait repris le paddle aujourd'hui, ça a indéniablement donné un grand coup de pouce. Il y avait eu ce débat-là en Espagne il y a très longtemps. On a nos voisins espagnols, ils sont 4,5 millions de pratiquants, donc vous voyez un peu la marge que ça laisse. Mais effectivement, le fait que la fédération les repris et commence maintenant à mettre les moyens en œuvre pour le développer et foncièrement le fond de l'évolution du paddle dans les années à venir.
Alors, vous êtes également tous les deux mariés avec des enfants. Vous avez transmis cette passion ?
Pas vraiment. J'ai une fille qui est ceinture noire de judo et l'autre est un passionné de rugby. Bon, pour aller de Toulouse, ça se passe bien. Alors, il joue, hein. Ma fille, pas du tout. Le petit joue un peu, mais ce n'est pas leur sport de prédilection.
Et moi, le mien, le grand, il fait de l'escalade et de l'athlétisme. Mais j'ai peut-être un petit espoir avec le numéro 2 qui a 7 ans et qui commence à me demander à jouer et peut-être en septembre prendre des cours de padel.
Donc un peu de curiosité de sa part. C'est...
Exactement. Et la dernière aussi, elle aime bien jouer un petit peu.
Et j'imagine que qu'en dehors du travail, le padel, en dehors de la passion et de la pratique, le fait de s'investir autant dedans, ça doit prendre beaucoup de temps.
Ouais, je vais laisser Alexis répondre.
Oui, alors on en parlera peut-être un petit peu après, mais c'est vrai qu'avec Laurent, on s'est lancé il y a 4 ans maintenant dans la création d'un circuit de padel, My Padel Tour FFT by Babola. Donc effectivement, c'est un projet ambitieux qui nous prend beaucoup de temps, donc en plus de nos métiers respectifs. Donc voilà, bon après on aime ça, on est passionné et on espère surtout que ce circuit, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais va se développer et puis que nous, ça nous aidera à nous structurer et avancer dans ce projet également.
Vous comptez la compétition, c'est quand que vous avez décidé de franchir ce pas-là au niveau du paddle ?
Ah, pas. Bon, moi quand j'ai commencé, il n'y en avait pas puisqu'on était très peu nombreux. Ça marchait déjà en Espagne, beaucoup en Argentine, etc. Donc il y a eu. Dès très longtemps, dès 1992, il y a eu les premiers championnats du monde, donc moi j'y étais parce que c'est vrai qu'on était peu nombreux. Mais après, Alexis l'a dit tout à l'heure, lui il a été en pôle France à Poitiers, donc c'est quelqu'un qui a toujours fait de la compétition. Moi j'en ai fait beaucoup dans le foot avant de venir dans le paddle. Donc bon, après, je pense que chez nous deux, c'est un peu naturel la compétition. Quand vous avez fait du sport et que vous êtes un peu un compétiteur, donc dès qu'il y a eu des compétitions de paddle, on s'y est, je pense, automatiquement mis tous les deux dedans, quoi.
Vous avez eu des échanges également avec d'autres pays comme l'Espagne ou l'Argentine ? Vous avez déjà eu des partenariats, d'autres équipes qui sont venues ici ?
Alors oui, forcément. Alors en fait, on a joué longtemps en équipe de France, tous les deux, donc pendant une quinzaine d'années. Donc on a eu la chance de beaucoup voyager, donc on est allé un peu partout en Europe et également beaucoup en Amérique du Sud, en Argentine, au Mexique, au Brésil. Donc il y avait des organisations, il y a des compétitions internationales qui sont créées. Donc il y a des championnats d'Europe tous les deux ans, il y a des championnats du monde tous les deux ans. Ça, c'est le minimum. Donc déjà, voilà, ça nous a permis d'échanger avec un peu toutes les fédérations et de jouer donc, souvent avec les Argentins, les Espagnols, qui sont les leaders hein, en padel. Donc on a quand même... Il y a toujours eu une organisation de compétition mondiale. Et aujourd'hui, c'est en train de se développer encore hein, de ouais. plus en plus.
On le voit, c'est partout. Hein. Je veux dire, il y a du padel au Japon, il y a du padel en Suède énormément, il y a... On est vraiment sur une extension. Pendant de longues années, ça a été très développé Amérique du Sud et Sud de l'Europe, Portugal, Espagne, Italie, France et un peu la Belgique. Aujourd'hui, on joue au padel en Lituanie, vous jouez au padel en Russie, vous jouez au padel à Stockholm, vous jouez au padel en Angleterre. Il y a des terrains qui sont montés, même à Jersey. Enfin, je veux dire, bon, voilà, le Japon, on fait des terrains de paddle.
Dans tous les continents, ouais. Australie, Chine, donc ça se joue partout maintenant.
Donc il y a même des Coupes du Monde de paddle actuellement des...
Il y a un circuit, chaque pays a ses propres circuits, l'Espagne a son circuit, etc. Il y a aussi, après il y a deux grosses entités, vous avez la FIP, la Fédération Internationale de Paddle, qui a créé un circuit, qui aujourd'hui est un circuit, on va dire... entre l'amateurisme et le professionnalisme, parce que les gains sont peu importants, mais il y a des tournois en Belgique, il y a des tournois en France, il y a des tournois en Italie. Et après, vous avez un gros circuit qui s'appelle le World Paddle Tour, qui est le circuit de référence au monde, où là, vous avez quasiment que des professionnels qui vivent du paddle, et avec un circuit avec des rémunérations importantes, avec des sponsors importants, qui est le circuit que vous voyez notamment, qui va un peu à Miami, qui va un peu au Portugal, qui est allé faire un tournoi d'exhibition en Belgique l'année dernière, mais qui a 80% aujourd'hui de son rayonnement en Espagne.
Ah oui, donc on peut vivre du paddle au niveau professionnel, donc ça commence vraiment à devenir quelque chose de sérieux, un peu comme le rugby qui s'est professionnalisé depuis quelques années. Le paddle maintenant devient...
Oui. Le paddle, aujourd'hui, il a existé un circuit qui s'appelait le Paddle Pro Tour, qui était le départ du professionnalisme en 2005, à peu près. Aujourd'hui, oui, depuis 5-6 ans, depuis que le World Paddle Tour, depuis 2010-2011, aujourd'hui, vous avez... on ne va pas annoncer des chiffres parce que ça pourrait porter à confusion, il faudra en être sûr, mais aujourd'hui, les meilleurs joueurs du monde gagnent très bien leur vie. Alors, on est évidemment très loin, on s'en doute, du football et des sommes astronomiques, mais c'est comme le rugby. Voilà. Le paddle s'est professionnalisé il y a 5-6 ans réellement, ou 7-8 ans, depuis 2010, je pense, et je pense que ça ira crescendo.
Et est-ce que un jour, si ce n'est peut-être, c'est peut-être déjà le cas, est-ce que nous retrouverons le paddle aux Jeux olympiques, pardon ?
Alors, ben nous, on l'espère. Hein. Alors, on commence à en parler. Il y a des projets qui se créent autour du paddle, et notamment de 2024, pour que le paddle soit aux Jeux olympiques en 2024. Alors, c'est très hypothétique pour l'instant, mais on y travaille, et le ministère des Sports a déjà un dossier sur le bureau, le CEO également. Donc il y a maintenant la Fédération française de tennis qui doit, elle aussi, enfin, qui va contribuer à impulser. Alors est-ce que ça ne sera pas un peu trop tôt 2024 ? C'est possible, mais en tout cas, c'est réellement lancé.
Donc oui, c'est un vrai projet. C'est un projet qui risque de se concrétiser sous peu de temps.
Oui, parce que encore une fois, on l'a dit, aujourd'hui, le padel se joue dans les 5 continents, qui est une des prérogatives pour lancer un sport aux Jeux Olympiques. C'est, on l'a dit, c'est pratiqué dans beaucoup de pays et de manière quand même nombreuse. Enfin, en Argentine, il y a plusieurs millions de joueurs. En Amérique du Sud, ça se pratique énormément. Et en Espagne, il y a 4 millions de joueurs. C'est le sport qui est le plus pratiqué après le football.
Oui.
Et je crois à égalité avec le basket. Donc il y a un vrai engouement. En Europe, ça se développe partout. Donc on a les chances, on a vraiment une réelle chance de voir un jour le padel aux Jeux Olympiques. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ça soit à Paris, évidemment, parce que ça serait une vraie occasion et une vraie aubaine pour le padel français et le padel en général. Mais ça viendra.
Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser l'histoire depuis l'origine du paddle ?
Oui, alors, vous pourriez entendre beaucoup d'histoires. L'histoire qui est la plus connue et qui, à mon avis, est la plus réaliste, c'est qu'il y avait un monsieur au Mexique qui s'appelait Enrique Corcuera, qui jouait au tennis avec son épouse. Et comme, a priori, il était meilleur que son épouse et que les balles avaient du mal à revenir, et qu'il habitait un peu en hauteur, il a décidé un jour de mettre des murs au moins au fond du terrain de chaque côté pour que les balles descendent pas et qu'elles n'aillent pas en bas. Et du coup, de ce terrain-là, en est arrivé le paddle. C'est-à-dire qu'il a commencé à mettre... Parce qu'aujourd'hui, vous voyez le paddle qui se joue dans ce qu'on appelle des pistes de cristal en verre. Mais il faut savoir que les premiers terrains de paddle, c'était des murs à la place du verre. Il y a même encore pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années, on jouait sur des terrains... il en existe encore, hein, d'ailleurs, il y en a même à Blagnac, où vous avez du mur à la place du verre. Donc pourquoi ils sont passés en verre au-delà du rebond ? C'est surtout pour une question de visibilité pour les spectateurs, etc. Donc l'origine, c'est bien... C'est un Mexicain, M. Corcuera, d'origine mexicaine, qui a inventé le paddle.
Alors, juste une précision, c'est mur, mais grillage sur les côtés.
Oui.
Donc c'était mur sur les parois du fond et grillage. Aujourd'hui,
C'est du cristal avec du grillage.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer les règles ? Comment ça se joue une partie de paddle ?
Ben là, c'est très simple. Déjà, le décompte des points est le même qu'au tennis. Donc, voilà, c'est 15-0, 15-A, 30-15, jeu. Ça se joue en 2-7 gagnants. Donc, comme au tennis, le décompte est le même. Après, au niveau des règles, c'est très simple. On a des limites, on a des lignes sur un terrain de paddle qui ne servent qu'au service. C'est-à-dire qu'il faut servir comme au tennis dans un carré, en diagonale. Et à partir de là, on peut jouer où on veut, mais il faut que la balle...
Vous avez le droit de vous servir du grillage et des murs, mais il faut toujours que la balle touche le sol avant.
Il faut un rebond
au sol avant qu'elle touche ou le grillage ou les murs. Et vous pouvez, après le rebond sur le mur ou sur les grillages, renvoyer la balle de l'autre côté. Vous pouvez volleyer, vous pouvez smatcher, mais si la balle... Évidemment, dans le filet, elle est faute. Et si elle tape directement le grillage et les murs sans avoir fait un seul rebond au sol, elle est faute également.
D'accord. Donc, voilà. ça ressemble un peu au squash, mais...
On peut dire que c'est un hybride entre le tennis, le squash et la pelote basque.
D'accord.
Pour résumer.
Alors, j'ai entendu la rumeur comme quoi la balle pouvait passer derrière le grillage, qu'on pouvait sortir du terrain, la renvoyer dedans... Et la balle n'est toujours pas...
Alors,
on n'est pas éliminé.
Quand on commence à avoir... Oui, mais il faut avoir un certain niveau. Oui. Mais effectivement, quelqu'un qui se match, la balle tape le sol, elle tape le mur, elle sort sur le côté du terrain. Vous pouvez sortir par la porte, puisqu'il y a un passage des deux côtés du terrain, où la porte, évidemment... il n'y a pas la porte, mais il y a le passage. Et tant que la balle n'a pas touché un élément extérieur au terrain ou qu'elle n'a pas touché le sol, vous pouvez également aller la jouer dehors pour la remettre dans le terrain.
Donc ça, c'est une pratique qui se fait souvent ou c'est quand même très anecdotique ?
Oui, c'est... Non, alors en France, c'était anecdotique. Aujourd'hui, il y a quelques joueurs qui sont plutôt spécialisés dans ces coups-là, donc qui arrivent. Au niveau professionnel du World Padel Tour, c'est fréquent. Ça fait partie des coups aujourd'hui qui sont rentrés. Pour eux, c'est... Bon, on ne va pas dire qu'on est dans la banalité, mais les meilleurs joueurs du monde savent tous le faire. C'est un peu problème.
La reprise de volée du joueur de padel.
C'est un peu la bicyclette du football au padel, exactement.
Alors, à quoi ressemble un match en général ? Ça dure combien de temps ?
Oh ben c'est très variable, hein, dans la mesure où c'est comme au tennis avec 2-7 gagnants. Donc ça peut durer une demi-heure si le score est de 6-1-6-1 et qu'il n'y a pas trop d'échanges. En revanche, moi, ça m'arrivait de jouer jusqu'à près de 4 heures match de padel, puisque ben, après, les échanges sont longs.
Oui, Alex, il a raison. Les échanges sont beaucoup plus longs qu'au tennis.
Puisque du fait qu'il y ait les murs, en fait, on peut jamais. Il n'y a pas d'ace. Hein. Là, au tennis, on fait un ace et le point est fini. On fait un coup droit gagnant, le point est fini. Là, c'est la balle, elle revient toujours. Donc, c'est vrai que quand on arrive à être quatre joueurs du même niveau et qu'on arrive à se neutraliser, ben, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges. Alors, c'est moins cardio que le tennis, peut-être un peu moins de puissance. Par contre, voilà, le match peut être très long et il faut être très résistant, en fait. Donc, voilà, ça peut aller de une demi-heure à quatre heures.
Donc voilà, c'est un sport d'endurance. Moi, j'imagine que le cardio doit, avec le changement d'appui, ça doit quand même monter assez vite.
Oui, il y a du fractionné. Hein, c'est parce que le terrain est petit quand même. Donc il faut avoir du fond, comme dit Alexis. C'est vrai qu'un match en moyenne dure une heure et demie, mais on peut dépasser largement. Mais il faut, comme de toute façon, je pense, tous les sports, il faut du fond. Et après, oui, c'est le terrain fait 20 par 10 et chaque côté fait 10 par 10. Donc on est beaucoup sur les appuis. Et donc oui, le fractionné est important, oui.
Alors nous allons maintenant effectuer une première pause musicale avec un morceau d'AC/DC qui s'appelle Thunderstruck. nous sommes de retour avec Alexis Salle et Laurent Humbert. Alors, nous allons maintenant parler du public que l'on peut retrouver dans le paddle. Alors, j'imagine qu'il y a de tout âge et de tout type de personnes, des personnes qui peuvent être des bons sportifs avec un niveau confirmé, comme des débutants.
Oui, alors c'est vrai que le paddle, alors le gros avantage, et c'est ce qui fait un peu le succès du paddle en Espagne, c'est que c'est un sport qui peut se pratiquer assez longtemps, qui ne nécessite pas des qualités physiques incroyables, hein, parce que du fait d'avoir le mur, du coup, ça réduit quand même l'espace. Donc évidemment, plus on va être sportif et plus on aura des facilités au paddle. Mais à l'inverse, on peut ne pas avoir d'aptitude physique et pour s'amuser, jouer et se détendre. Donc c'est un sport qui peut se pratiquer un petit peu à tout âge. Et le deuxième vrai intérêt de ce sport, c'est aussi qu'il se pratique aussi par beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes aiment jouer au padel. Et en Espagne, on a, je crois, 40% des pratiquants de padel qui sont des femmes, ce qui est presque un record, je crois, sur la pratique d'un sport par rapport au pourcentage hommes-femmes. Donc voilà, ça c'est un vrai atout. Après en France, donc, on voit se développer le padel dans les sports, dans les clubs privés. C'est surtout pour l'instant la tranche d'âge, c'est surtout 25, 60 ans, 50 ans. Maintenant, ce qu'il faut, il y a un gros effort à faire, c'est justement sur l'enseignement des enfants. Parce que ce sport, il va se développer si les enfants jouent. Et là, pour le coup, on a vraiment beaucoup de progrès à faire.
Oui, vous pensez qu'il y a quand même une sorte d'éducation effectué au niveau du...
Bah oui, le problème c'est que les enfants ils aiment jouer à un sport qu'ils voient à la télé. Donc tant que ce sport il sera pas plus médiatisé, c'est compliqué quoi. C'est vrai que les enfants, alors après quand on les fait jouer nous nos enfants ou d'autres, ils adorent ça, mais après ils ont envie de voilà, ils aiment la compète. Pour l'instant ça c'est pas encore organisé. Là, je pense qu'il y a un gros chantier à faire et c'est un peu aussi les enjeux de la fédération et
c'est ce qui est intéressant aussi.
C'est ce qui est intéressant. Ouais.
Ensuite, j'imagine qu'il y a des techniques particulières au paddle. Ça ne se joue pas comme le squash ou comme le tennis, justement. D'avoir ses propres techniques.
Oui, alors on va dire que la technique est amenée, dans la majorité, elle prend un peu de tout. Parce que c'est vrai que les murs de côté, murs du fond, ça ressemble plutôt à des coups de squash ou de pelote basque quand la balle rebondit sur les murs. C'est vrai que c'est le jeu pour l'arrière. Quand on est devant, on a plus tendance à avoir une technique tennis pour la volée et les smatchs. Même si le smatch, on va pas entendre les tests, serait compliqué, il faudrait que les gens le voient en vidéo, mais le smatch du paddle a quand même une particularité technique. Maintenant, c'est vrai que les gens qui viennent du tennis, en plus, ce sont ceux qui aujourd'hui, ce qu'on voit arriver aujourd'hui, parce que le paddle commence à se développer, c'est ceux qui quand même ont la plus grande capacité d'adaptation.
La raquette, elle est différente aussi.
Ah oui.
On ne joue pas du tout avec le même matériel.
Ah non,
matériel.
La raquette, on va dire que c'est une très grosse raquette de ping-pong. Entre guillemets, il n'y a pas de cordage. Hein. Ce sont des raquettes soit en carbone et polyuréthane, soit full carbone, entièrement carbone. Qui ont une dimension, on va dire, de 30 cm, de 30 sur 25 à peu près. Les gens pourront les voir sur Internet, mais non, ça n'a rien à voir avec... On va dire qu'on est entre la très grosse raquette de ping-pong et la raquette de tennis pour la taille, mais il n'y a pas de cordage du tout. Et donc, il y a des petits trous à l'intérieur de la raquette, évidemment, pour éviter la résistance au vent, comme le cordage d'une raquette de tennis.
Donc, ça doit être léger et facile à manier.
Ouais, on varie entre 3. Alors pour les hommes, on varie entre 330 et 380 grammes à peu près pour une raquette de paddle. Donc on est un peu plus lourd qu'une raquette de tennis. Alexis me contredira, mais je sais pas, mais je crois qu'on est sur du 280 grammes à raquette de tennis ou 300 grammes, je crois. Je sais que les femmes jouent beaucoup avec des raquettes de 250 grammes. Pour en avoir discuté il y a pas très longtemps avec une joueuse de tennis. Donc pour les hommes, on est sur des raquettes quand même sur des poids quasi équivalent, je pense.
Ouais, c'est à peu près le même poids. Après, c'est vrai que la répartition est différente, mais c'est globalement pareil. Et les balles de tennis sont... Alors, les balles de padel sont similaires aux balles de tennis, mais un petit peu plus dégonflées.
Très légèrement, pour éviter des rebonds trop importants. Donc là, c'est vraiment une balle de tennis, mais avec une pression un tout petit peu plus légère.
Et tout est normé, hein, sur, pour ce genre.
Oui, oui, oui.
Pour être entraîneur... Il faut un diplôme de la Fédération française de tennis, il faut un diplôme de...
Oui, alors ça c'est un vaste débat, parce qu'en fait aujourd'hui, dans la mesure où le padel dépend de la Fédération française de tennis, aujourd'hui ce qui est un petit peu contradictoire, c'est qu'un professeur de tennis, qui donc a un BE de tennis, mais qui n'a jamais touché une raquette de padel de sa vie, peut enseigner le padel. À l'inverse, On a justement un Toulousain, Bastien Blanquet, voilà, qu'on salue, qui aujourd'hui vit en Espagne pour sa passion et qui donc ne vit que du padel. Lui a été récemment champion de France en septembre 2017, mais n'est pas professeur de tennis, donc n'a pas le droit d'enseigner le padel. Ça peut paraître un petit peu surprenant, mais c'est une réalité. On en a conscience, la fédération le sait, et justement, c'est des choses qui sont prises en compte. Et aujourd'hui, ça va changer. Enfin, dans les années à venir, peut-être même les mois à venir, il y aura un diplôme.
Une sorte de VAE, quoi, une validation
exactement.
D'acquis par expérience.
Oui, c'est un sujet qui est sur les bureaux de la Fédération française de tennis. Ils en sont conscients, ils le savent. Et la fédération, aujourd'hui, je pense qu'ils ont, ça y est, ils sont partis d'une copie blanche aussi. Ce n'était pas facile pour la fédération d'avoir un nouveau sport avec des nouvelles contraintes qui ne sont pas celles du tennis. Donc c'est dans les petits papiers, ils sont en train de prendre une ligne de conduite et ils savent qu'il y a, de toute façon, quand vous partez d'une page quasi blanche, il y a pas mal de choses à prévoir, mais c'est dans les tuyaux. Oui.
En France, nous avons à peu près combien de clubs de paddle maintenant et de licenciés?
Alors, les clubs, je ne saurais pas vous dire, je pense qu'on doit en avoir peut-être 150 ou 200. Je pense, je suis pas certain des chiffres. Par contre, les chiffres donnés a priori par la Fédération française de tennis, on était 20 000 pratiquants il y a 3 ans, et ils pensent finir l'année 2018 vers les 100 000. On était à peu près 80, 85 000 en fin 2017, et on pense qu'il y aura à peu près 100 000 pratiquants en fin 2018.
Ah, et donc on a multiplié par 5 le nombre de pratiquants.
Ben oui, parce que ce que disait Alexis tout à l'heure était vrai, c'est qu'il y a deux raisons pour lesquelles les gens jouaient pas au padel en France. C'est que la première, il n'y avait pas de terrain. Donc c'est délicat de faire un sport quand vous n'avez pas de terrain. Et c'est très ludique, et ce qu'il disait Alexis aussi, c'est vrai, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes en Espagne qui jouent au padel. Et donc qui dit femme, dit souvent famille. Monsieur et madame vont jouer au padel ensemble, et souvent les enfants suivent aussi dans les clubs. Et donc ça s'est développé beaucoup plus vite. Donc oui, aujourd'hui la croissance, elle est, en 2-3 ans, elle a été exponentielle par rapport aux 20 années qui sont passées. Oui.
Et concernant la préparation physique d'un joueur de padel qui veut justement aller vers la compétition?
Alors,
vers quel axe s'orienter justement?
Ça me fait sourire. Je vois Alexis qui sourit aussi. Je vais laisser parler parce que moi je suis un peu moins préparation physique que lui, donc je pense qu'il est mieux placé que moi pour en parler.
Oui, ben on voit là clairement certains coachs physiques qui font maintenant du spécifique padel. Alors il y a pas mal de similitudes, on l'a dit, avec le tennis, hein, dans le jeu de jambes, voilà. Mais il y a aussi des particularités, et on commence vraiment à avoir des joueurs qui s'entraînent beaucoup, beaucoup physiquement et qui font plus de physique finalement que de padel, parce que c'est un sport qui est quand même très contraignant.
Oui, j'imagine, parce que le changement d'appui, ça doit se travailler. Il faut sûrement travailler le fractionné.
Il faut travailler le fractionné. Et c'est aussi, il faut être très mobile sur les jambes, il faut être puissant, il faut avoir de la détente, parce que ça se joue beaucoup en smash. Et c'est aussi développer tout le haut du corps, parce que voilà, vous verrez un match de padel, mais on fait énormément de smash. Donc forcément, tout ce qui est épaules et haut du corps est important et sollicité. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet c'est un sujet qui se développe. On voit de plus en plus de coachs qui suivent les joueurs, et ça se professionnalise au niveau de la préparation physique.
Et oui, j'imagine qu'il y a des critères un peu particuliers, comme l'explosivité, justement le changement d'appui, de changement de position.
Oui, parce que à la différence de ce qu'on voit au tennis, alors Roland Garros c'est pas forcément le bon exemple parce que c'est un jeu sur terre, mais comme disait Alexis, lui qui a beaucoup joué au tennis, aujourd'hui quand vous servez fort au tennis ou vous servez un ace, bon, c'est terminé. On sait qu'un match de tennis dure réellement 22, je crois, un match en 3-7, c'est 22 minutes de temps de jeu. En paddle, c'est beaucoup plus long. Et oui, aujourd'hui, ça nécessite une préparation physique spécifique. Et comme disait Alexis, évidemment, il faut travailler les jambes parce que vous ne faites pas de sport sans vos jambes. Mais je pense que le haut du corps est très sollicité par rapport à d'autres. Donc oui, aujourd'hui, explosivité, mobilité, du fond. Oui, aujourd'hui, on voit sur le circuit français, entre guillemets, qu'on a mis en place, on en parlera plus tard, mais il y a 2-3 préparateurs physiques qu'on voit régulièrement, un vers Perpignan, un vers Monaco, Nice et un à Paris, auquel je pense, et qui aujourd'hui étaient préparateurs physiques dans d'autres sports. Et aujourd'hui, il y a des joueurs de paddle qui, aujourd'hui, font partie de l'équipe de France ou qui sont dans les 10 ou 15 meilleurs joueurs français, qui se sont rapprochés de ces préparateurs physiques pour améliorer leur jeu par cette préparation physique.
Alors j'imagine qu'il faut aussi un certificat médical pour pratiquer le padel.
Alors en fait, il faut un certificat médical et en fait une licence. Donc c'est à travers la licence, quand on prend une licence, on donne un certificat médical. Et c'est d'ailleurs cette licence qui donne droit de faire de la compétition à la fois au tennis et au padel. C'est encore des choses qui aujourd'hui sont communes à ces deux sports.
D'accord, donc avec cette licence, on peut accéder à tout le panel en fait, que propose la Fédération Française de Tennis.
Ouais, avec la licence, vous pouvez faire tennis, beach tennis et padel.
D'accord, le squash ne fait pas partie de la non. Fédération non, non. Française de Tennis. D'accord. Non. Ni la... Comment on dit le sport basque,
la pelote basque.
La pelote basque, voilà.
Non plus, c'est une fédération à part.
D'accord, donc on a accès à trois sports avec une licence.
Exactement.
Ensuite, on va parler plus précisément de votre parcours, le My Paddle Tour.
Alors, My Paddle Tour, c'est un projet qu'on a eu il y a 4 ans avec Laurent. Alors, pourquoi il y a 4 ans ? C'était au moment où voilà, on sentait qu'il y avait du développement du padel en France. On savait qu'il y avait un rapprochement avec la Fédération Française de Tennis. Nous, vu nos âges aussi, même si on continue à faire de la compétition, forcément, c'était quand même derrière nous. Et on avait envie de rester dans ce milieu du padel, de la compétition. Et on avait envie d'offrir aux joueurs, aussi aux nouveaux joueurs, un circuit que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir parce que c'était moins développé. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure. Alors, un petit peu au départ, c'était, on ne savait pas trop où on allait, hein, pour ne rien cacher. Donc on a démarré en 2016, une première année. On a fait 4 étapes, un petit master, vraiment avec les moyens du bord. Mais malgré de peu de moyens, on a fait ça quand même, je pense, avec beaucoup d'envie et de la rigueur et de la qualité. On s'est de suite positionné sur un circuit... Voilà, où on s'intéressait beaucoup aux joueurs. Nous, le but, c'est vraiment de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Donc, que ça soit en termes d'horaires de jeu, de soins médicaux, de restauration, d'hôtellerie. Voilà, et donc, à la fin de cette première année, qui était plutôt une réussite par rapport à nos objectifs, on a été contacté par la Fédération Française de Tennis, qui nous connaissait forcément, hein, puisque nous on a été longtemps dans les équipes de France et moi je suis toujours capitaine de l'équipe de France de masculine. Et donc nous ont dit, écoutez, voilà, nous aujourd'hui on veut créer un circuit de padel en France avec notre équipementier Babola. Donc on a deux solutions, soit on le crée, soit on se rapproche d'un circuit existant aujourd'hui. Et nous, en tout cas, si vous êtes d'accord, nous on est partant pour faire cette aventure avec vous. Et donc, My Paddle Tour est devenu My Paddle Tour FFT by Babola. Et ça a été le début de l'aventure avec la Fédération Française de Tennis. Et je vais laisser Laurent en parler un petit peu, mais ça fait 2 ans maintenant qu'on bosse ensemble sur ce projet.
Voilà, la Fédération est devenue partenaire du circuit. Il nous aide dans le développement et dans d'autres choses. On va en profiter, c'est vrai que pour aussi... ce circuit, il aurait pas eu lieu sans des partenaires. Et c'est vrai qu'on a au départ beaucoup de partenaires locaux qui nous ont aidés. On va pas tous les citer, mais c'est vrai qu'en faisant vite, il y a la société Assurenco, avec Monsieur Chaubet et Monsieur Juin, qui sont pas très loin d'ailleurs de vos bureaux. Il y a le groupe BTM avec Monsieur Mercier et Monsieur Marin. Il y a aussi le cabinet SB Conseil. Alexis le connaît bien, parce que c'est lui qui s'en occupe avec son associé. Il y a l'UCPA, il y a la BNP Paribas, il y a RTL2 qui nous suit depuis le départ. Enfin, bon, voilà, il y a la société Utopia aussi, ce sont des campings. Voilà, ce sont des gens sans qui, même malgré la passion et l'envie qu'on voulait y mettre, ce sont des gens sans qui le circuit n'aurait jamais vu le jour. Donc, on en profite quand même aussi pour les remercier. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, comme disait Alexis, on a commencé avec 4 étapes Masters. Cette année, on fait 8 étapes et on clôturera le Masters à Monaco au club de Beausoleil. Ça a pris beaucoup plus d'ampleur, je pense, que ce qu'on avait anticipé au départ. Cette année, on a encore eu un très gros coup de pouce, financier. Grâce à Monsieur Fabrice Pastor, le président directeur général de Monte Carlo International Sport, et de Monsieur David Vincent, qui lui est le PDG de la société Smart Trade. Et c'est vrai que sans ces gens-là, on n'en serait pas là où on en est. Et on a envie de faire plus. On a vu la fédération il n'y a pas très longtemps. On a une passion commune qui est le sport. Ils ont repris le paddle, il faut qu'ils s'en occupent. Nous, on est passionnés par ce sport. Et au-delà de la compétition que nous, on transmet dans le My Paddle Tour, je pense que c'est un sport qui a le mérite d'être connu par les femmes, les enfants, les gens. Parce que, comme disait Alexis, on le disait souvent en rigolant il y a quelques années, le paddle, c'est un peu comme les jeux Nathan, quoi. C'est de 7 à 77 ans et c'est super ludique, c'est facile. Et les gens peuvent vite s'amuser. Donc, au-delà, effectivement, du circuit, il y a beaucoup de choses à faire.
Oui, donc il y a cet aspect ludique qui est important et qui charme de plus en plus de pratiquants.
Oui, et puis les gens, finalement, se rendent compte que quand on a créé le My Paddle Tour, on avait beaucoup de gens au départ qui venaient voir, en fait. Ils disaient, ouais, mais bon, il y a toujours les meilleurs, c'est pas facile, etc. Et puis on se rend compte que les gens, c'est addictif, le paddle. C'est un peu comme une drogue. Et les gens qui jouent au début pour s'amuser se sont dit, bon, pas grave, il y a les meilleurs, mais je m'en fous, j'y vais quand même. Donc là, on a fait le tournoi au Tennis Club de Lers et on se rend compte qu'il y a des gens qui ils viennent jouer, ils viennent faire de la compétition, alors qu'ils n'en faisaient pas vraiment dans le tennis ou au badminton ou au squash. Donc c'est le My Paddle Tour, pour ça, c'est aujourd'hui devenu une référence en France de compétition. Voilà, on y met beaucoup d'envie, ça nous prend beaucoup de temps. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est devenu un vrai circuit. Voilà.
Et alors, peut-être pour resituer, alors My Paddle Tour, c'est un circuit, donc, comme l'a dit Laurent, on se déplace en fait partout en France. Voilà, donc en fait, on est, par exemple, cette année, on va de Bordeaux, Toulouse, Lyon, Perpignan, Paris, Monaco, Aix-en-Provence. Donc le but à terme, c'est d'être dans toutes les régions de France. Voilà, ça c'est quand même la notion de circuit. On veut être un peu partout dans l'Hexagone. Et ce qu'on souhaite faire, c'est à terme, encore une fois, hein, c'est l'objectif, c'est d'être présent peut-être sur des places publiques ou dans des lieux où il y a du monde, comme un petit palais des sports. C'est-à-dire qu'on puisse, nous, ce qu'on veut, c'est mêler la compétition, on l'a dit, au haut niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les meilleurs joueurs français disputent nos épreuves. Et on a même des Espagnols qui viennent jouer sur nos étapes de My Paddle Tour, mais des gens qui sont des très bons joueurs. Donc on est destiné à avoir les meilleurs joueurs français, mais également on voudrait associer le côté promotion. Donc pour ça, il nous faut de la visibilité. Donc c'est en ça où aujourd'hui, nous, on s'appuie sur nos clubs. Donc on les remercie, hein, parce qu'à chaque fois, nous, on va dans des clubs, on arrive avec tout notre... On a un camion, on arrive avec nos supports publicitaires, on arrive avec nos chaises, nos tables de juge-arbitre, tout un concept qui est très homogène. Il faut savoir que derrière My Paddle Tour, il y a toute une équipe. On a une société de communication avec deux personnes qui nous suivent sur toutes les étapes. On a un juge-arbitre. Donc notre société de communication, c'est PSE. Dirigé par Baptiste Pouy et Jérôme Ingrant. On a un juge-arbitre qui est toulousain, Gérard Blanquet, qu'on remercie, hein, encore une fois pour toute son aide, qui nous suit sur toutes les étapes. Et il y a aussi Padel Magazine, qui est donc le journaliste référent du Padel en France, Franck Binisti, qui nous suit également. Donc on se déplace, on est 6, on va dans des villes, on a un camion, on a tout un process. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de la visibilité et qu'on puisse, à travers nos étapes, faire jouer des enfants, faire jouer du public. Et pour ça, ben voilà, aujourd'hui, c'est dans les clubs parce qu'on n'a pas assez de moyens. Mais demain, on espère, et à terme, pour être visible sur des places publiques et des gymnases.
Oui, parce que l'objectif du My Paddle Tour, c'est évidemment de rester dans la compétition de haut niveau. Mais ça doit, et on en parlait souvent avec la Fédération française de tennis, et ça doit être aussi un outil de communication et d'animation et de faire connaître le sport. Excusez Alexis, c'est vrai. C'est qu'aujourd'hui, on arrive, on livre un package, les clubs, ils font rien. Ils nous accueillent super bien et sans les clubs, il n'y aurait pas non plus de My Paddle Tour. Mais nous, on leur livre un package et ce qui serait top, c'est qu'à l'avenir, le My Paddle Tour puisse arriver, au lieu d'arriver le vendredi midi ou le vendredi soir pour un tournoi de 2 jours, ça serait d'arriver 2 jours avant et de faire venir jouer les enfants des écoles environnantes afin de pouvoir promouvoir ce sport auprès du grand public.
Donc aujourd'hui, My Paddle Tour, c'est un peu une image de marque que vous proposez au paddle et une organisation clé en main, en fait.
C'est ce que dit Alexis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un club qui veut le My Paddle Tour, il nous appelle et comme dit Alexis, ben, on prend le camion, on a nos partenaires, nos supports publicitaires, on a le juge-arbitre, on a le règlement, on a les trophées, on a les remises des prix, on a tout. C'est-à-dire que le club, aujourd'hui, on leur demande juste d'avoir... ils nous aident parce qu'on leur demande certaines choses pour nous aider, pour démonter, monter, avoir de la restauration pour que les joueurs puissent se restaurer, bon voilà, des vestiaires, enfin quelque chose de normal pour que les gens puissent pratiquer du sport. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le My Paddle Tour, aujourd'hui, c'est un un circuit clé en main pour les clubs.
Donc vous nous avez dit que le mécénat est quelque chose d'important et de fondamental dans ce genre de projet, mais j'imagine que par exemple l'association à la Fédération française de tennis ainsi qu'à Babola, ça a été quelque chose d'important. Comment ça est venu cette association avec Babola ?
En fait, l'association, elle est avec la Fédération française de tennis. C'est-à-dire que nous, on a un partenariat avec eux. Babola est l'équipementier padel de la Fédération française de tennis. Et de ce fait, on travaille également avec Babola. Mais nous, notre relation contractuelle, elle est avec la Fédération française de tennis. D'accord. Pour nous, c'était évidemment très important d'être associé à la fédération, dans le sens où ça nous donne de la visibilité et ça peut contribuer vraiment à l'essor de notre circuit. Après, aujourd'hui, c'est récent, c'est-à-dire que c'est un circuit qui est jeune, même si on est de loin, je pense, et en toute modestie, le circuit référent en France aujourd'hui, dans le monde du padel, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. La relation avec la fédération, elle date de 18 mois, donc on est encore en pleine discussion, stratégie avec eux pour savoir précisément ce que va devenir notre circuit dans les années à venir.
Et justement, une question, quelle est la différence justement entre le My Padel Tour, vu que c'est un tournoi, et le championnat de France?
Alors, c'est deux choses totalement différentes. Hein. Le championnat de France, c'est une compétition officielle qui est vraiment gérée par la Fédération française de tennis.
Donc, et sur quelques jours.
Sur quelques jours, et qui découle de régions. C'est-à-dire qu'en fait, on a des championnats départementaux de padel qui se jouent en ce moment, là d'ailleurs, il y a un petit peu partout en France. Les meilleurs, donc les champions de ces départementaux, de ces compétitions départementales, vont se rencontrer pour une compétition régionale. Donc, par exemple, à Toulouse, la compétition régionale Occitanie, puisque maintenant dépend de l'Occitanie, se déroule le 30 juin. 30 juin et 1er juillet, de mémoire, à Toulouse, au Toulouse Padel Club à Toulouse. Et les meilleurs de ces championnats régionaux vont aller se rencontrer donc en phase finale des championnats de France. Donc c'est vraiment quelque chose de très... On est dans le même dispositif que le tennis. C'est-à-dire qu'ils ont suivi un petit peu la même démarche que le tennis. Le circuit My Padel Tour est un circuit indépendant.
Ouais, le championnat de France, ça donne un titre de champion de France. Aujourd'hui, le My Padel Tour ne donne pas un titre de champion de France ou autre. Le My Padel Tour, c'est un circuit de 8 étapes et un Masters. Ça délivre... Alors, nous, on est le circuit homologué par la Fédération française de tennis. Donc, ça peut déterminer le numéro 1 français, parce qu'il y a des points à chaque tournoi. Donc, à la fin de l'année, vous avez un classement français. Parce que le championnat de France, il y a un championnat de France qui donne un certain nombre de points. Donc, c'est en fait, le championnat de France, comme disait Alexis, c'est par étapes et c'est une compétition qui est gérée à 100% par la Fédération française de tennis. Et nous, c'est un circuit. C'est un peu, vous pouvez comparer ça au tennis, c'est comme quand vous avez tous les tournois du Grand Chelem, les Masters Mi, etc. Et en fin d'année, vous avez le Masters on pourrait dire que c'est le... Vous avez le... Toute l'année au tennis, vous avez le meilleur joueur du monde, plus il gagne le tournoi, puis finira numéro mondial. Mais on dit aussi que celui qui gagne le fameux Masters de tennis, le tournoi des maîtres, c'est le meilleur parce que c'est là où il y a les 8 meilleurs joueurs du monde. Donc c'est un peu le parallèle.
Et quels sont vos projets à venir pour My Padel Tour ?
Oui, il y en a plein. Non, il y en a beaucoup. Après, Alexis répondra après moi, mais aujourd'hui, on est passionnés de la même chose. Avec Alexis, on est tous les deux des entrepreneurs dans nos vies professionnelles. Le padel est une passion, mais on a envie de le développer. Si c'est pour rester comme ça, ce n'est pas le but. Donc, le My Padel Tour, aujourd'hui, il est peut-être à 10% de son exploitation. Donc, on pourrait faire, comme disait Alexis, faire des étapes un peu plus longues. Au lieu de faire deux jours, on peut faire 3-4 jours, on pourrait être sur des places publiques, ce qui nous permettrait de faire connaître le padel à un plus grand nombre de gens, parce que les gens, évidemment, passent à côté des terrains, quand vous êtes place du Capitole, place de la Comédie à Montpellier, si vous êtes au Trocadéro à Paris, c'est une évidence. Donc, aujourd'hui, enfin, en tout cas, moi, ce que je souhaite en faire, c'est en faire un vrai circuit de peut-être 13, 15, 20 étapes en France, professionnel, qu'on soit capable d'avoir des hôtels partenaires pour loger les joueurs. Voilà. Moi, mon but ultime, ça serait de vraiment développer ce circuit pour qu'il devienne un circuit professionnel en France. Et qu'au-delà de ça, ça permette au padel de connaître un vrai essor et qu'il ait, on va dire, sa place dans le monde du sport en France et qu'il mérite.
Très bien. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre parcours en, justement, en joueur professionnel dans le haut niveau, au niveau du paddle ? Comment ça se passe une...
Alors, nous, on n'est pas des joueurs professionnels au niveau du paddle. Nous, on peut parler de certains joueurs en France.
Ou de ce qu'on a fait, nous. Mais oui, aujourd'hui, il n'y a pas de joueurs professionnels en France. Aujourd'hui, il n'y a aucun joueur en France. Alors, à part certains qui sont en Espagne... 3-4 joueurs qui sont en Espagne, et notamment aussi il y a une fille, Laura Claire, alors ils en vivent, mais après ça dépend de ce qu'on appelle être professionnel. Aujourd'hui, les joueurs français, les 6-7 joueurs français qui sont partis en Espagne, arrivent à vivre du paddle parce qu'ils ont des partenaires financiers en France, des sponsors, pour parler clairement, qui les aident financièrement. Mais aujourd'hui, aucun joueur en France ne gagne sa vie par rapport aux gains de tournoi ou autre. Nous, on n'a pas connu ce système-là. On a commencé il y a très longtemps. Nous, on était purement amateurs et on l'est toujours. Surtout maintenant, à nos âges, quand on dit élections, on sera surtout des amateurs. Mais aujourd'hui, un professionnel en France, de paddle, ça n'existe pas. Les seuls qui gagnent aujourd'hui de l'argent en France par le paddle, c'est parce qu'ils sont profs de paddle et qu'ils donnent au Tous Paddle Club ou à Paris ou à Monaco. Enfin, dans des clubs, ils travaillent comme profs de paddle ou d'autres, mais aujourd'hui il n'y a aucun joueur en France ou joueuse qui peut se targuer d'être un professionnel de paddle, dans le sens où on entend professionnel, quelqu'un qui arrive à vivre de ses revenus du paddle, même si il y a 5-6 joueurs qui aujourd'hui arrivent à se payer un logement, à manger, à s'entraîner, à voyager pour faire les tournois grâce aux sponsors.
D'accord, et être capitaine de l'équipe de France de paddle, j'imagine que ça doit être beaucoup d'activités.
Alors, non, pas tant que ça, dans la mesure où c'est quand même, on reste, c'est ce qu'a dit Laurent, hein, on reste un sport amateur. Donc, même si c'est vrai, certains joueurs qui ont fait le choix et qui aujourd'hui tentent leur chance en Espagne en sacrifiant beaucoup de temps et peut-être même un peu d'argent pour certains, ça reste un sport amateur. Donc, en gros, l'équipe de France, c'est un ou deux rassemblements par an, où on réunit les joueurs pour des entraînements, pour un petit peu grossir le groupe. C'est une compétition de qualification et ensuite des championnats officiels. Donc là, par exemple, ce week-end, dans 4 jours, là, je pars en Belgique pendant 3 jours pour les qualifications aux championnats du monde qui auront lieu au mois de novembre au Paraguay. Donc en gros, c'est 2 week-ends par an de préparation, un week-end de qualification et une semaine de championnat en fin d'année.
Oui. Et quand même, il est sympa parce que il n'en dit pas trop, mais et quelques mails et quelques coups de fil quand même pendant l'année, donc il bosse. Ça le fait bosser un peu.
Oui, voilà. Après, oui, évidemment. Comme il faut suivre aussi les joueurs, ils nous appellent avec leurs petites angoisses, leurs petits soucis, mais voilà. Après, c'est vrai que c'est super intéressant.
Facteur humain,
quoi.
Ça, c'est
très ouais.
Ensuite, j'ai vu que l'équipe était championne d'Europe, si je me trompe pas, l'équipe de France.
Alors. Il y a eu une équipe de France qui a été championne d'Europe, effectivement, une année, la seule année d'ailleurs, depuis, je pense, 30 ans, où l'Espagne, alors il faut quand même le dire, hein, n'a pas participé à une compétition internationale. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas l'Espagne, mais il fallait gagner, et l'équipe de France a été championne d'Europe en 2015, en novembre 2015. Aux Pays-Bas.
Donc, ce qui est pas mal pour le paddle en France.
Ah, mais c'était super, c'est une super vitrine. Ouais, oui. C'est une compétition très disputée. C'est vrai que pour l'équipe de France, c'est vraiment un très beau résultat. Quoi. Bah, je souligne juste qu'il n'y avait pas l'équipe d'Espagne parce que l'écart est tel, faut quand même l'avouer, que s'ils avaient joué, ils auraient gagné. Mais voilà. Après, l'équipe de France a
été.
C'est
pas la même fédération. Ils ont.
Non, la fédération espagnole, il y a une fédération espagnole de paddle. Qui est totalement indépendante de la Fédération espagnole de tennis. Donc, ils ont leur propre fédération, ils ont leur propre ligue catalane, basque, madrilène, andalouse. Le paddle est complètement dissocié en Espagne de la Fédération espagnole de tennis.
Et c'est vrai que quand on compare en France, où on est à 100 000 licenciés environ,
oui.
Alors ils sont à 4 millions, c'est quand même 40 fois plus.
Ben ouais, c'est 40 fois plus, mais c'est surtout 30 ans de paddle de plus, quoi. Donc aujourd'hui, je vous dis tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui les gens jouent pas au paddle parce qu'il y a pas de terrain. C'est un sport qui est hyper addictif. Donc le jour où il y aura, au lieu d'avoir, je dis n'importe quoi, je ne sais pas combien de terrains de padel en France, mais il y a peut-être 500 ou 600 terrains de padel en France, peut-être 800, je ne sais pas exactement, ou 1000, je ne sais pas. Mais en Espagne, il y en a peut-être 25 ou 30 000. Donc le jour où dans toutes les villes, même une ville comme des petites villes de province de Toulouse, que ce soit Cugno, Balma ou autre, dès que vous aurez à chaque fois dans une ville de 7, 8 000 ou 10 000 habitants, un club de padel avec 3, 4 terrains, les terrains dans l'année sont pleins. Et les gens joueront au padel. C'est inévitable.
Et vous pensez que, c'est réalisable d'ici quelques années de faire construire ces terrains dans ces petites communes ?
Alors oui, il y a un plan d'ailleurs de développement au niveau de la Fédération française de tennis qui aide, il y a des subventions qui ont été dégagées au niveau de la Fédération pour aider les clubs justement à construire des terrains. Donc là, c'est un signe fort de la Fédération de vraiment inciter les clubs à investir dans des terrains. Après, le modèle économique, il est là, hein, parce qu'aujourd'hui, un terrain de padel, c'est quasiment dans un terrain de tennis, quasiment on met 3 terrains de padel. Sachant qu'un terrain de tennis, on joue à 2, et qu'un terrain de padel, on joue à 4. Donc je vous laisse, c'est quasiment du 1 pour 10. Donc on est sur une rentabilité plus importante. Alors, avec aussi un modèle économique qui est différent, hein, parce qu'un club privé, ben, lui, doit se payer ses infrastructures, doit payer des vestiaires. C'est aussi, ça reste compliqué, hein. Puis il faut trouver du foncier, donc on le sait, c'est pas facile, hein, surtout dans des villes, des métropoles, hein, comme Toulouse. Mais le modèle économique existe, on le compare un petit peu au foot en salle. C'est un petit peu le même modèle économique. D'ailleurs, il y a 2 ans, il y a eu un rapprochement une fusion entre le Five et Soccer Park, et avec une levée de fonds spécifique de plusieurs millions d'euros pour développer le padel dans leur structure de foot en salle. Et on le voit, là, il y a déjà 3-4 clubs sur Toulouse et Colomiers.
Mais à Colomiers, ouais, Colomiers, le Soccer Five, ils ont condamné un terrain de foot salle qui était à l'extérieur. Ils ont mis 2 ou 3 terrains de padel.
Parce que j'imagine que même pour la Fédération française de tennis, ça doit être justement très, très bien pour eux, justement, d'augmenter le nombre de terrains de pratiquants et donc de licences pour...
Ben moi, en tout cas, nous, avec Alexis, on est persuadés qu'aujourd'hui, le fait que le padel soit rentré dans la Fédération française de tennis, ça ne peut qu'apporter du bonus à la Fédération. D'ailleurs, on en parlait il n'y a pas très longtemps avec l'élu en charge du padel à la Fédération, M. Hubert Piquet, qui, quand on en a discuté, je pense qu'on a eu sur la discussion le même fond de notre pensée, c'est qu'aujourd'hui, le tennis a eu quand même une perte de vitesse. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des professionnels du tennis. Je m'avancerai pas là-dessus. Et je pense que moi, au contraire, le paddle peut ramener à nouveau des licences et des gens dans les clubs. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui partagent mon avis. Et je pense que ça peut être un grand bien pour la Fédération française de tennis.
Alors nous allons maintenant passer à la séquence littéraire.
La minute littéraire d'Oxyform.
Alors, nous allons commencer par le choix littéraire de l'invité. Donc, un choix choisi par Alexis.
Alors, moi, j'aime beaucoup lire. Voilà, donc, moi, j'ai choisi un livre qui m'a marqué quand j'étais jeune. C'est Où tu porteras mon deuil. Donc, c'est un livre de Dominique Lapierre qui raconte le destin du torero El Cordobés. Alors de son nom Manuel Benitez, en fait voilà, c'est l'histoire d'un orphelin qui était mendiant et qui a toujours peint toute sa jeunesse galéré et qui vivait de mendicité, puis qui était aussi un fan de tauromachie. Puis en Espagne, bon, c'est dans les années de Franco, hein, c'est les années 60, les gens avaient la possibilité en fin de corrida d'aller se montrer, d'aller défier un peu les taureaux. Alors c'était pas des taureaux de corrida, mais voilà. Et puis là, il s'est fait remarquer, et de là on l'a invité dans des petites tauromachies, dans des petits villages. Donc c'est quelqu'un qui est parti de tout bas, et puis qui est devenu le Cordobès avec tout ce qu'on sait derrière, et puis il a révolutionné la tauromachie. C'était quelqu'un, enfin c'est une histoire qui est magnifique, et je vous invite tous à lire ce livre, parce que moi à 16 ans ça m'a waouh, je me suis dit quel destin, et je trouve que c'est beau. Après c'est sous fond d'histoire sur la guerre d'Espagne, voilà, comme j'aime aussi, je m'intéresse à l'histoire, ça m'a beaucoup touché.
Surtout dans cette région d'Occitanie.
Et oui, où la tauromachie a toute sa place.
Alors le livre s'appelle « Où tu porteras mon deuil » de Larry Collins et de Dominique Lapierre. Nous allons maintenant passer au conseil de lecture d'Oxyform. Alors pour mon conseil de lecture, j'ai choisi « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle. C'est un livre de développement personnel qu'on m'a offert il y a peu. Il est très facile à lire et on va dire accessible à tout le monde. Et personnellement, ça m'a beaucoup plu. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai le découvrir par vous-même. On va maintenant parler course à pied.
Les courses à venir dans la région.
Alors nous avons la Corrida de Cugnot ce vendredi 15 juin 2018 qui vous proposera une course de 5 ou de 10 km avec un départ pour 20h et ce à Cugnot bien sûr. Ensuite nous avons le Trail des Remparts ce samedi 16 juin 2018 qui vous proposera une course de 10 km en solo ou en relais de 2 avec un départ pour 18h à Aurignac.
Oxyform. Oxyform.
Nous remercions Alexis Salle et Laurent Humbert.
Et merci beaucoup Romain d'avoir fait cette émission pour faire connaître le paddle au grand public.
Merci Romain, à bientôt.
Merci à vous. Vous étiez sur Oxyform, une émission de Romain Galtier. Nous remercions Dorian Gilmal et Alan Delahaye à la technique. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Oxyform ou Esprit Occitanie, ainsi que sur le site de la station ou sur www.oxyfit.fr. Je vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine.